podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue à tous dans ce nouveau dossier podcast de Frontières des séries. On ne peut définitivement pas gagner à tous les coups, c'est la mère constatation qu'a dû se faire le scénariste Kevin Williamson en 2002, lors de l'échec cuisant de sa nouvelle série L'île de l'étrange, Glory Days, en version originale. Tout auréolé des triomphes successifs des films Scream, Souviens-toi l'été dernier au cinéma et de Dawson's Creek à la télévision, Williamson revient sur le petit écran en 2002 sur le réseau WB avec cette île de l'étrange en 10 épisodes de 42 minutes. Mix incertain et quelque peu bâtard entre drame familial, série policière et intrigue flirtant avec le fantastique, ce formula show n'est jamais parvenu à imposer son ton et fut annulé après la diffusion de 9 de ses 10 épisodes. Pour revenir sur ce coup d'épée dans l'eau, Tilman Villette, Tilman bonjour.
Bonjour.
Pour nous accompagner aujourd'hui, Cindy Willem, bonjour.
Bonjour.
Alors Tilman, pouvons-nous expliquer le plantage de l'île de l'étrange uniquement à cause de son concept quelque peu tarabiscoté ?
Oui et non, dans le sens où ça n'a clairement pas aidé. Maintenant, à côté de ça, je dirais que le reste de la série est tout aussi catastrophique. Alors, pour revenir un petit peu sur la thématique donc de la série, sur l'histoire, donc c'est le personnage de Mike Dolan qui est un jeune écrivain qui retourne sur sa terre natale. Alors il retourne sur une île qui s'appelle en fait Glory Days, d'où le titre en version originale. Son père est décédé et il revient sur cette île également après avoir écrit un livre qui critiquait quand même assez fort les habitants, qui s'en moquait quand même assez cyniquement en les faisant passer un peu tous pour des bouseux. Et évidemment, l'accueil est plutôt frais quand il revient, que ce soit dans sa famille, puisque dans son livre il y avait quand même de grands éléments autobiographiques. Il expliquait que son père était infidèle avec la tenancière d'un resto-route, etc. Donc bon, voilà, sa famille ne l'accueille pas de manière très chaleureuse non plus, ses deux sœurs, sa mère, et puis le reste de la communauté non plus, puisque son ex-meilleur ami, qui est en fait devenu le shérif de la ville, Mike le faisait passer pour un incompétent, pour quelqu'un, un bineuronal. Ce n'est plus donc son meilleur ami. La tenancière de ce petit bar, restaurant, n'est pas très heureuse non plus de s'être fait passer pour la traînée de la communauté. C'est un retour un peu chahuté. Et puis, cerise sur le gâteau, lors de la traversée qui lui permet donc de revenir sur l'île, il y aura un meurtre qui sera commis, puisque, en tout cas, au début, on pense que c'est un accident. Quelqu'un tombe à l'eau et se noie, un homme. Il apparaîtra bientôt qu'en fait, il s'agirait plutôt donc d'un meurtre. On a l'histoire de base, et ce pilote-là, en fait, avait été proposé par Williamson pour pouvoir raconter l'histoire d'un drame familial, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec la mort du père, sur les relations entre Mike et ses sœurs et sa mère. Et puis, les dirigeants de la WB, en fait, lui ont plutôt dit « ça peut être intéressant, mais nous, on aimerait bien plutôt que tu en fasses un formula show ». Alors, faire un formula show avec cette base-là, c'est un peu bizarre, dans le sens où il devrait alors y avoir des sortes d'histoires, des meurtres, des histoires étranges sur une île, dans une toute petite communauté. Ça voudrait dire qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences et beaucoup de choses qui se passent au même endroit avec les mêmes personnages.
Ça n'a pas empêché Arabesque d'avoir plus d'une dizaine de saisons.
Mais Arabesque, elle bougeait de ville en ville.
Oui, il y a quand même eu beaucoup de meurtres à Cabot Cove.
Cabot Cove était une sale région. Glory Days, c'est pas beaucoup mieux, semble-t-il.
Donc tu parlais aussi de tout ce qui est relation avec la famille et les amis. Et en même temps, le titre, c'est L'île de l'étrange. Donc est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose tiré vers la science-fiction ou plutôt sur une centralisation sur les personnages et leurs histoires ?
Et voilà, en fait, également dans ce pilote, on a plutôt une intrigue policière pour le coup, alors que dans les autres épisodes, on se rendra compte que on se base sur des intrigues plutôt qui tirent vers le fantastique. Donc, par exemple, dans le deuxième épisode, on aura une histoire d'un garçon qui serait possédé, dont la mère ne sait plus quoi faire. Et alors, bon, là aussi, on a un grand renfort d'effets un peu cheap, des scènes qui se passent tel l'exorciste dans la chambre de l'enfant avec le lit qui bouge, des éclairs, les portes qui claquent, l'enfant qui parle avec une voix d'outre-tombe. Et puis finalement, quand même, à chaque fois dans tous les épisodes, malgré ces éléments qui flirtent avec le fantastique, il y a toujours une bonne explication rationnelle et on se rend compte qu'on repart alors dans le canevas plutôt de l'intrigue policière avec à chaque fois un coupable ou une manipulation, etc., qui vient expliquer en fait ces éléments un petit peu surnaturels à la base. Alors c'est l'île de l'étrange, effectivement c'est toujours un peu étrange, mais c'est pas du fantastique malgré tout, même si on flirte avec. C'est un peu donc un pitch bâtard dans le sens où on suit quand même l'évolution de ce retour de Mike dans sa petite communauté et en même temps on va pas gratter beaucoup plus loin par rapport à cela et rapidement vu qu'il faut que Mike ait des interactions avec les autres personnages de l'île, notamment le shérif pour résoudre les enquêtes, tout ce côté on lui en veut, c'est vite gommé finalement, on reviendra pas dessus. On se rend compte aussi dans le début de l'intrigue qu'il y a des mystères également sur la mort de son père, on le pose au début de la série et puis on le laisse tomber ce morceau-là, on va complètement l'oublier je dirais dans la suite de la saison, on va uniquement se focaliser à chaque épisode sur une nouvelle intrigue avec des nouveaux personnages qui arrivent, qui sont suspects, qui sont souvent au départ faussement suspecté et puis c'est un autre personnage qui semblait à la base ne pas avoir affaire à cette histoire-là qui arrive et qui est effectivement le coupable tout le temps.
Un peu dans le même genre qu'une série policière au final du style Les Experts où on a chaque fois une nouvelle
Ouais, ça me fait penser à ça, ça me fait penser aussi à Scooby-Doo en fait pour le coup parce que tous les personnages sont un peu cartoonesques comme ça en font des caisses, sont pas vraiment c'est un peu des bras cassés pour la plupart, même le shérif. Et cette petite équipe, à chaque fois, se retrouve plongée dans des histoires qui les dépassent, flirtant avec le fantastique, mais on se rend compte toujours qu'il n'y a pas d'élément fantastique malgré tout.
Et t'as pas autre chose ? Un gamin qui pisse dans une fontaine, ça va pas faire les gros titres.
Ma chérie, on n'a plus d'encre. Tu peux me tenir ça ?
Demande à Lou.
Il est au téléphone.
Oui, je suis toujours là. Va au ferry, essaie de trouver des touristes. Il y en a peut-être un qui a pris des photos. Je veux le scoop sur ce coup-là.
Salut tout le monde.
Mike ?
Maman ? Bon. Tu l'as fait exprès. Aïe, ça brûle. Aïe ! Pourquoi t'as fait ça ?
Je sais pas, le choc, tu débarques d'un coup. Quoi, je t'ai blessée ? Oh, mon bébé, je suis désolée.
Ça doit être ton côté soupe au lait.
Alors, pourquoi t'es revenu ?
Le mal du pays. Ma famille aussi me manquait. J'ai pas mis les pieds ici depuis 4 ans.
Mais encore ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour le savoir que je suis ici.
C'est quoi ce délire ? Encore un truc pour salir la mémoire de papa ?
Jusqu'à la fin de mes jours, tu vas me le reprocher, mon livre.
Je refuse que tu te serves de nos vies pour tes fantasmes de gratte-papier. Tu as fait d'un simple accident un meurtre.
Facile, la thèse de l'accident, non ?
Ah, mais si on lit ton livre ?
Mon livre, c'est une fiction, d'accord ?
Faire ça à papa. À nous, je veux dire, sa mort, c'était déjà assez dur.
S'il te plaît, arrête, Sarah. La mort de papa, on l'a tous encaissée comme on a pu. Si Mike a écrit un livre, c'est qu'il en avait besoin. Je te trouve méchante.
Et là, doucement, ça aussi, c'est méchant.
Je parie, tu te l'as envoyé toi-même, cette lettre, pour revenir creuser les tombes, remettre le passé au goût du jour et en profiter pour préparer le tome 2.
Quelqu'un m'a envoyé cette lettre, Sarah, et je veux savoir qui a fait ça.
Tu as maigri.
On se rend donc bien compte, suite à cet extrait, que les relations entre Mike et sa famille sont assez tendues.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, il faut aussi avouer que, comme héros, Mike, c'est pas vraiment la personne pour laquelle on pourrait avoir le plus de sympathie. Parce qu'il revient en étant un peu désinvolte, en ayant écrit ce bouquin qui était pas sympathique pour la plupart des membres de sa communauté. Et qu'il en a un peu l'air d'avoir rien à faire, quoi. Il revient un peu comme un héros, il a eu du succès. Et il a l'impression que les gens vont l'accueillir les bras ouverts, sa famille va l'accueillir les bras ouverts. Pour jouer ce personnage, et ça c'est aussi assez intéressant d'un point de vue de cette série, ici, c'est que c'est un acteur qu'on reverra dans d'autres séries, mais après donc 2002, et notamment surtout dans Under the Dome et dans Les Experts à Manhattan, puisque c'est Eddie Cahill qui le joue. Pour vous dire, il y a plein d'autres acteurs aussi, en fait, qui se trouvent dans cette série-ci, qui auront une carrière par après. Donc, on se rend compte qu'on peut commencer finalement en jouant dans un gros nanar, et malgré tout, après avoir une carrière qui fonctionne, puisque Parmi les autres acteurs, on aura donc le shérif, donc l'ex-meilleur ami qui est joué par J.R. Ferguson. Et ben J.R. Ferguson, on a pu le voir dans Surface, mais surtout comme Stu Rizzo dans Mad Men pendant beaucoup de saisons. Un acteur en fait qui a réussi aussi à percer. Poppy Montgomery donc dans Unforgettable et dans surtout FBI Portée Disparue.
Oui, parce que là, elle est quand même retournée au nanar là.
Elle est retournée au nanar, mais bon, ça lui va si bien, je dirais. Poppy Montgomery, elle joue le rôle d'Ellie Sparks, qui est une médecin légiste en fait, puisque sur Glory Days, il y a quand même une médecin légiste qui est là, vu qu'il y a quand même beaucoup de morts et beaucoup de problèmes. Alors ça aussi, ce personnage est complètement horripilant, parce qu'elle passe son temps à faire des blagues foireuses.
C'est Poppy Montgomery,
et je pense que le personnage a été écrit sur mesure. C'est aussi assez incongru, ce personnage de légiste, parce qu'elle vit dans un cabanon au fond des bois.
C'est pas très Poppy Montgomery,
mais surtout on se demande, mais avec les corps, qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que bon, à moins qu'elle ait des frigos ou quoi que ce soit, c'est quand même un cabanon au fond des bois, un gigantesque cabanon, hein, mais un cabanon quand même. Eh bien, on aura l'explication au détour d'un épisode, et cette explication, c'est qu'en fait, les corps, elle fait des expériences avec en les mettant dans son jardin pour voir la décomposition des corps. Moi, j'ai assisté à cette scène complètement éberluée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Et en fait, voilà, elle explique juste qu'il y a plusieurs corps dans son jardin. Comme ça, elle voit un petit peu les plantes qui poussent autour, comment le corps se décompose.
Et donc, la famille ne les réclame pas.
Non, mais à Glory Day, semble-t-il, tout le monde donne son corps à la science.
D'accord.
Ou les gens n'ont pas le choix, en tout cas.
Et elle les déterre pour voir de temps en temps.
Oui. Elle retire la bâche. Oui, parce qu'effectivement, c'est Mike qui tombe sur un cadavre dans le jardin de Poppy. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle lui explique, voilà, moi, il y a tous les corps qui sont là, ils pourrissent. Bon, ok, rien à voir, une scène complètement incongrue, mais il y en a beaucoup hein, dans la série.
J'aimerais savoir quand même si Poppy, sur son CV, indique encore Glory Days comme référence ou pas.
En même temps, elle ne peut pas mettre grand-chose à part FBI Portée Disparue, hein, Poppy. Et alors, on aura aussi Emily Van Camp, qui est la Emily de Revenge, hein, série donc de ABC. Elle a un de ses premiers rôles en tant qu'ado ici, puisqu'elle joue la jeune sœur en fait de Mike, donc Sam Dolan. Et alors là c'est un peu la caution, pour le coup je drague le public adolescent, parce que bon, déjà la série a un ton relativement ado.
C'était pour The Weeby en même temps.
Oui, évidemment, donc c'était pour une chaîne aussi qui cible les ados, mais elle voilà, elle a l'âge de jouer une ado. C'est la gentille petite sœur de Mike, mais qui fait quand même des bêtises, et alors qui à chaque fois se retrouve embarquée dans les histoires de policières ou fantastiques, en tout cas qui flirte avec le fantastique de son frère. Et elle se retrouve mais quasiment un épisode sur deux en danger. C'est un peu la Kim Bauer de l'île de l'étrange.
Et on a autant envie de la baffer.
Je dirais que Emily Van Camp a une peut-être moins un claque qu'Elisa Kuchberg, mais elle est gentillette, et alors elle a toujours des interactions aussi avec Zan Walker, qui est interprété donc par Ben Crowley, qui est en fait le fils de la tenancière du bar. Ces deux ados se tournent toujours autour, lui est amoureux d'elle, elle l'aime bien, mais bon voilà. Et donc c'est un petit peu le côté Dawson-esque, je dirais, pour le coup ici de l'île de l'étrange. Et alors, on a le personnage également donc de l'autre sœur de Mike, donc Sarah Dolan, et de la mère aussi, Mitzi Dolan, qui donc tiennent un journal, le journal de Glory Days, qui était en fait avant tenu par le père de Mike, et qui vivent assez mal également le retour de Mike dans la communauté, puisqu'ils ont été fortement heurtés par tout ce qu'il a pu écrire, et notamment le déballage familial qu'il avait pu faire. C'est des personnages relativement secondaires dans l'intrigue, même s'ils apparaissent quasiment dans tous les épisodes, elles n'ont pas forcément beaucoup d'influence, mais le personnage de la mère, qui est interprété donc par Franz Fischer, qu'on a pu voir notamment en mère de Kate Winslet dans Titanic, pour les gens qui s'en souviennent, et notamment aussi dans The Shield, c'est un personnage qui semble sous crack constamment. Elle est complètement survoltée tout le temps, elle hurle pour rien, hystérique. J'ai pas compris vraiment l'intérêt de ce personnage, si ce n'est de rajouter encore plus d'étrangeté à l'île de l'étrange, peut-être. Mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, les personnages qui composent cette île. Et pour parler de l'incongruité de certaines scènes, et à nouveau de Poppy Montgomery, comme second extrait, je proposerais que vous écoutiez en fait les conseils que donne Poppy, médecin légiste, donc, à la sœur de Mike, qui a 14-15 ans, pour pouvoir séduire un garçon. On en reparlera peut-être rapidement après, mais j'ai trouvé ce dialogue complètement surréaliste.
Tu veux que moi, je t'apprenne à draguer ?
De façon provocante et sensuelle.
T'es au courant que je passe le plus clair de mon temps avec des hommes qui n'ont plus de libido ?
Je t'ai vu à l'œuvre. Tu mets la tête à l'envers à Mike.
Tu trouves ?
Tu peux en faire ce que tu veux. Il y a une tension entre vous deux, c'est chaud comme la braise.
D'accord, si tu me disais ce que tu veux.
C'est simple. Le garçon est plus vieux que moi.
L'âge ne change rien.
Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me remarque ?
Alors, je dirais que le plus important pour une approche réussie, c'est la confiance en soi.
Je l'ai, la confiance. Je suis déjà allée lui parler.
Oui, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut que tu le cherches, il faut que tu joues un peu avec lui. En clair, ne lui donne pas ce qu'il attend et manipule ses faiblesses émotionnelles. C'est ce que j'ai fait avec ton frère. Sauf que je ne suis pas sûre que ce soit la méthode à conseiller vu qu'il a pris ses distances avec moi. Ouais, oublie ça. Je crois que j'ai une meilleure idée. Il faut qu'il tremble sur ses bases. Bombarde sa cervelle d'un tir nourri de mots à rallonge et compliqués, tu lui en mets plein la vue.
Je lui en mets plein la vue, ok.
Mais le jeu ne s'arrête pas là. La bouche légèrement en cul de poule, fixe-le longuement droit dans les yeux et doucement, tu lui prends le bras. S'il résiste encore, suce un glaçon d'une langue torride, ça les rend tous dingues.
Les yeux, son bras, la glace. Autre chose ?
Oui. J'ai peut-être des fringues à te faire essayer.
Sucer un glaçon et mettre une robe moulante, c'est peut-être pas le meilleur conseil qu'on puisse donner à une ado de 14 ans.
Non, bah, Poppy, voilà, c'est Poppy, hein. Elle donne les conseils qu'elle peut et elle met bien des cadavres dans son jardin, donc pourquoi pas conseiller à une gamine effectivement de mettre beaucoup de rouge à lèvres et de prendre des glaçons dans sa bouche. Si un jour vous voyez cette scène qui va suivre ces conseils, c'est assez drôle, hein, voir Emily Van Camp à 14 ans dans une robe rouge moulante qui suce son glaçon, là, c'était fantastique. Sinon, la série, je trouvais quand même intéressante d'un point de vue de son auteur. Kevin Williamson, pour resituer un petit peu, c'est le créateur donc de la série Dawson, mais c'est également le scénariste de films comme Scream, comme Souviens-toi l'été dernier, de Faculty, donc les films du grand retour du slasher fin des années 90 et début 2000. Ici, ben en fait, il reprend ces deux créations de base, on va dire, et il essaie de les mixer. Donc, il reprend des éléments un peu horrifico-fantastiques de ces films et ce terreau, on va dire, un peu drame familial à la Dawson. Et d'ailleurs, dans l'imagerie, la ville de Glory Days ressemble assez fort en fait à la ville de Dawson, Capside. Donc on a également un port, c'est une île évidemment, mais donc Capside était une ville portuaire. On a beaucoup d'espaces verts, ça fait penser assez fort au décor en fait de l'Amérique du Nord, limite avec les Canada. Glory Days, c'est un peu la même chose, c'est une île très forestière aussi. Et des acteurs même aussi, finalement, parce que Eddie Cahill, on dirait un peu un Dawson du pauvre, je trouve. Il a les yeux bleus aussi, il avait un peu une tête à claque à l'époque, bon, beaucoup plus jeune que dans les rôles, évidemment, qu'il joue actuellement. On a des interactions entre les personnages aussi qui font parfois un peu penser aux interactions qu'on pouvait voir dans Dawson, mais tout semble ici en fait être exagéré et un peu raté. Donc souvent Dawson avait des interactions avec ses parents, sa famille qui était un petit peu conflictuelle aussi, et bien mais toujours gentille. Ben ici c'est pareil, c'est conflictuel mais ça se résout toujours. Il y a quand même toujours un petit côté tout est bien qui finit bien, on te pardonne. Voilà, c'est la bienveillance, je dirais, de Williamson qui ressort aussi là-dedans.
Avec toujours un discours lénifiant derrière.
Il y a toujours un petit discours lénifiant, même si la série semble souvent elle aussi survoltée, ou en tout cas elle en fait tellement des caisses que parfois ce discours est un petit peu moins lénifiant. Mais on retrouve quand même ce petit côté moralisateur de Williamson. C'est amusant de voir que finalement, en reprenant les ingrédients de recettes qui ont marché pour lui, bah, il se plante lamentablement et il réussit pas du tout à faire ce qu'il voudrait faire. Malgré tout, il y a plein de références aussi, parce que Williamson, c'est quelqu'un qui fonctionne dans ses scénarios et dans ses histoires énormément à la référence, à l'hommage souvent. Dans les Scream, il y avait énormément d'hommages aux anciens films d'horreur. Beaucoup de références. Et ben pareil ici dans la série, on remarque qu'il y a quand même quelques références, surtout à des films d'horreur ou en tout cas des thématiques horrifiques. Dans un épisode, par exemple, il y aura un épisode sur des clowns. Donc, il y a une sorte de congrès de clowns qui se fait à Glory Days. Alors, voilà, Glory Days, elle accueille tout et n'importe quoi. Également des congrès de clowns. Oui. On voit qu'il y a un clown tueur. Donc, moi, ça m'a fait penser quand même à des films comme ça, comme Les Invasions des clowns tueurs de l'espace. Là, ben voilà, on repense à ça. Il y a également un épisode où il y a des nouveaux voisins qui arrivent et qui paraissent louches. Les héros commencent un peu à les épier. Moi, ça me faisait penser un peu à des films comme Fenêtre sur cour où on se demande ce qui se passe réellement chez les voisins, est-ce que les voisins sont des gens bien ou pas. Il y a d'autres épisodes avec des femmes vampires, enfin, supposées vampires. Voilà, c'est plein de petites allusions, de petites références à des films d'horreur ou des thématiques horrifiques que Williamson utilise et a toujours finalement utilisé quand on regarde bien dans son travail.
Mais c'est vrai qu'on tourne vraiment du coup dans le cliché, les vampires ou les loups-garous, c'est ce qui manque.
Ah oui, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, bon, ici je dis ça presque comme si c'était une qualité, mais c'en est pas une dans L'île de l'étrange, parce que c'est tellement traité de manière plan-plan et sans aucune originalité que... on se dit, c'est du vu et du déjà vu. Et au final, qui plus est, même quand ça flirte avec le fantastique, il n'y a même pas une sorte de petit doute à la fin qui pourrait dire, c'était peut-être vraiment du fantastique ou pas. Mais là, non, on reste vraiment dans quelque chose d'hyper premier degré. C'est pas du fantastique, il y a une explication rationnelle à tout.
Mais du coup, c'est pas du tout crédible, en fait. J'ai l'impression, vu qu'on amène vraiment des thèmes super bateaux, limite si ça pouvait être à la limite de l'étrange, mais là, on apporte vraiment quand même des choses assez...
On est vraiment dans quelque chose qui est super bateau. Et il y a même une auto-référence, c'est assez amusant, dans le 8e épisode, si on se souvient un petit peu, hein, pour ceux qui l'ont vu, bientôt l'été dernier, c'était donc un sledger avec un pêcheur tueur. Donc il est tué avec un crochet comme ça. Dans l'épisode 8, il y a une miss à nouveau qui se fait tuer. Et ça, c'est assez drôle parce que dans Souviens-toi l'été dernier, c'était d'ailleurs Sarah-Michelle Gellar qui jouait le rôle d'une miss qui se faisait tuer par ce pêcheur. Et bien là, il y a à nouveau une miss qui se fait tuer. Mais c'est complètement ridicule dans le sens où on découvre le cadavre pendu par les jambes, saucissonné dans une corde avec un crochet, enfin c'est ridicule. Et tous les personnages sont là autour, ne se rendent pas compte du ridicule de la situation, semble-t-il, et en train de palper ce pauvre cadavre comme si c'était une vieille poiscaille. Enfin voilà, il y a plein de scènes comme ça qui sont bigger than life.
Et est-ce que les scènes justement font peur? Est-ce qu'on a par exemple cette petite musique de film d'horreur ou
Ben on a le cliché de la musique du film d'horreur avec toujours évidemment le voilà, ce bruit de strident de violon ou cette grosse explosion tout d'un coup de son, mais c'est super cheap quoi, parce que pour le coup ça arrive 5-6 ans après des screams qui étaient beaucoup plus stressants ou effrayants que ça. Ici le sang, c'est du ketchup hein. C'est vraiment pour le coup du ketchup. On voit un sang qui est rouge fluo presque. Enfin, ça manquait, je pense, fortement de moyens.
Oui. Ils n'avaient pas le budget pour acheter la sauce barbecue à côté pour mélanger.
Non, je crois qu'ils n'avaient pas du tout beaucoup de budget, mais pour rien. Le scénario, les acteurs, non, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Alors, ben, ça a été évidemment un échec hein, cuisant, puisque au final, la série a été annulée au bout de la diffusion de 9 épisodes. Alors, je comprends pas trop, il y en a eu 10 et ça n'avait pas diffusé le dernier, semble-t-il. Dernier qui est introuvable. Moi, j'ai essayé, donc j'ai pas réussi à le retrouver. Par contre, bah, la série n'a pas eu donc de clôture. En tout cas, au bout du 9e épisode, il n'y avait pas de clôture. En même temps, c'est pas très grave non plus, dans le sens où de 1, c'est pas très intéressant, et de 2, c'était un formula show, donc. Finalement, à chaque fin d'épisode, on partait sur une autre intrigue.
Et de 3, tout le monde s'en fout.
Et de 3, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous parle de cette série. Et voilà.
Presque alors, tout le monde.
Presque donc. Tout le monde. Et je pense que réellement tout le monde s'en fout dans le sens où la série est quasiment pas sortie non plus en DVD. Donc, en fait, aux États-Unis, elle est jamais sortie. Ça reste un inédit. Et en Europe, on s'en fout peut-être un peu moins, mais elle est sortie, mais de manière assez bizarre, dans le sens où Glory Days s'est renommé Demon Town. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et ça a été édité sous forme de 3 DVD, donc Demon Town 1, 2 et 3, qui auraient dû ressembler à des films téléfilms, mais qui sont en fait des condensés d'épisodes. Voilà, ça montre tout le respect et tout l'intérêt qu'on peut porter à la série. En plus, je vous dis, je l'ai vu en français et c'était encore pire. Et donc, les studios Schinkel, parce que j'ai appris que c'était eux qui avaient fait le doublage en français, ils se sont surpassés aussi pour le coup parce que c'était vraiment, vraiment très, très mauvais. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce fantastique.
Ou pas. Bon, on sait pas si tu nous as donné envie. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de voir, ne fût-ce que pour le côté craignos de la série. Je pense que je vais essayer de me faire l'un ou l'autre épisode, histoire de me...
Alors moi, si je peux vous conseiller, je conseille soit l'épisode du pêcheur, le 8e, qui est le plus drôle, ou alors éventuellement les voisins maléfiques ou les clowns. Pour moi, c'est les trois meilleurs, vraiment. C'est mon
et
top 3.
C'est dans lequel où on voit Poppy Montgomery dire qu'elle cultive des...
Ça, au début, c'est le 1 ou le 2, ça. On apprend assez vite qu'elle cultive du cadavre. Par contre, le conseil mal intentionné pour la gamine, c'est dans l'avant-dernier.
Donc, ouais. Faut tout voir, en fait.
Je pense qu'il faut tout voir. C'est 9 épisodes, les gars, ça va franchement assez vite. Non, il faut tout voir pour ne pas avoir raté quelque chose d'assez important dans la vie.
Et surtout voir cette grande œuvre de début de carrière de Poppy Montgomery, je crois que c'est toujours indispensable avant de replonger, bien évidemment, dans la suite de la suite de la suite d'Unforgettable. C'est là-dessus qu'on va refermer ce dossier. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très prochainement pour un prochain podcast sur FDS.tv.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.